Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et tu t'apprêtes à écouter en podcast un épisode du talk show de Bouscapé, Dis les termes. À chaque émission, un panel de professionnels va débattre sans langue de bois sur le rap. Allez, bonne écoute. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a retourné le rap français, je dirais même le rap en général. Ça s'est passé le 3 septembre dernier au Stade de France. C'était le baroud d'honneur de Booba. Ça a rassemblé plus de 80 000 personnes. Et je suis sûr que parmi les chroniqueurs aujourd'hui, certains y étaient présents. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on va faire, c'est parler de Booba, du Stade de France en lui-même. On va discuter de sa fin, parce qu'en quelque sorte, c'est une fin. Il y a eu aussi Ultra, il y a quelques temps, qui a annoncé cette fin. Et l'idée, c'est d'en parler avec l'équipe, se dire est-ce que c'est une fin réussie ou non. Et ça va être aussi l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière et sur les moments les plus importants. On va pouvoir en débattre un petit peu avec les chroniqueurs. Bon, comment ça va les gars?
Bien.
Ça va, tranquille. Cool, hein.
Ah, ça fait plaisir, là, ça change un petit peu. Il y a Nico toujours en train de sourire comme ça.
Quoi, je te fais rire, il rigole déjà.
Mon intro, elle est incroyable.
Non, je suis content, c'est...
Arrête, t'as envie de traiter des
intros
comme ça. Ça va, écoute, très bien, très content de revenir sur ces sièges.
Bon, Florian n'est pas avec nous dans cet épisode, mais on a Kirsch. T'es un peu devenu son binôme, je trouve.
Ah genre,
ouais, dans ma tête, en fait, dans les chroniqueurs, toi et Florian, vous êtes un peu le binôme.
Puis les faces, c'est bien, c'est vrai.
Ah, mais c'est ça, de fou. Et il y a surtout un gars qui est avec nous. En fait, on voit jamais son expression. On fait comme si c'était normal, mais il a quand même toujours un masque avec lui. Chroniqueur, c'est comment?
Ça va, tranquille, on est là, frérot.
Ça fait plusieurs semaines, on fait une émission avec un mec, un masque, et on se pose jamais la question sur son masque. Je trouve ça mortel. Bon, on va pouvoir parler un petit peu de Booba. Alors, déjà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui a été au Stade de France?
Moi, j'y étais.
Moi, j'ai pas participé, mais j'avoue, j'ai le seum de ne pas y avoir été, parce que bon, j'étais en déplacement à ce moment-là,
ouais.
Donc je pouvais pas. Mais donc j'ai vu un peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les vidéos, donc j'ai tout regardé. Mais c'est vrai que j'aurais voulu le vivre, parce que j'avoue, même pour la culture, de se dire de faire le Stade de France de Booba, c'est quand même important.
Ok. Toi, Kirsch, tu as assisté?
Moi, j'ai assisté. Franchement, pour le coup, moi, niveau tout ce qui est sono, etc., si genre un bémol, je commence par ça, tu vois.
Il commence par la négative.
Je me dis ce que j'en pense.
T'inquiète, non, t'inquiète, il y a une question parfaite pour ça.
Oui.
Je sais que tu...
Oui.
Et vous, les gars?
Et vous me dites, tu y étais?
Oui. Non, mais t'inquiète.
Sa première phrase, il a dit, voilà, sono.
Je suis pas un gesso, mais...
C'est vraiment ça.
Je suis pas un gesso.
Et vous, les gars?
Ouais, mais ça, on le sait. Oui, moi, j'y étais aussi.
Forcément, toi, maintenant, c'est devenu ton gars, un peu, non?
Mon gars. Non, j'ai fait une interview, mais j'y étais. Mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, les stades comme ça, le son, c'est très bien. C'est pas prévu pour.
C'est jamais
ouf, tu vois.
Et toi, Nico, t'y étais?
Non, pour le coup, j'y étais pas parce que, en fait, j'étais prévu sur un autre truc normalement.
Excuse-nous.
Mais j'ai pris le truc en streaming qu'il avait proposé.
Ouais,
14 balles, 16 balles, un truc comme ça. Pour le regarder, parce que du coup, au final, j'ai rien fait de ma soirée, si ce n'est regarder le concert de Booba en streaming.
Ouais.
Donc, je pense que niveau sono, j'aurais pas les mêmes avis que Kirsch, mais j'ai mon avis sur la question, sur le Stade de France, etc. Mais je pense qu'on va y revenir.
On va y revenir. Bah, en fait, la question qui suit, c'est tout simplement quels sont les points positifs et les points négatifs. Alors, toi, ton point négatif, on le connaît déjà.
Non, moi, je disais juste que même de façon générale, comme il disait Chroniqueur aussi, parce qu'il a développé après l'idée, moi, j'ai l'impression que déjà, les sonos dans les stades, c'est toujours particulier. Après, je suis pas un G-son et je m'y connais pas assez. Mais t'as l'impression que le son, il se disperse et que t'entends pas comme t'aurais entendu dans une salle qui est plus peut-être petite et fermée ou quoi.
C'est vrai que c'est plus facile à gérer, mais pour le coup, j'avais fait un Stade de France. Il y a pas si longtemps, c'était pas du peu rare pour le coup.
Mmh.
Et la sono était bonne.
Tu vois, ok, donc peut-être que c'est après, ouais, c'est question de comment tu fais
ça. Ça dépend peut-être où est-ce que tu es placé aussi dans le stade.
Aussi, peut-être. Aussi,
ah oui, et pour ceux qui se posent la question, non, j'y étais pas, j'ai regardé en streaming aussi.
Et pour le coup, moi, je trouve que c'était, mine de rien, une grande fête. Je pense qu'il y a eu des moments importants. Je pense que déjà, l'entrée, c'était quelque chose. Mais au-delà de l'entrée.
Ça m'a fait regretter, ça, de pas. Numéro 10.
Ouais, c'était, en plus, c'est un classique de sa discographie. Après, on va en parler un peu plus tard. Moi, je pense qu'il y a eu des moments importants, comme le moment avec sa fille, le moment avec Kanye West Samet dessiné. Il y avait
Mauvais Langue aussi. Tout le monde en parle de alors, ça, toutes les vidéos.
Excuse-moi
de tout
couper. Toi, pour toi, les points forts que toi, t'as kiffé en tant que personne.
J'ai kiffé le medley. J'ai bien aimé le moment avec sa fille, en vrai. J'ai bien aimé la fin. La fin sur, je crois que c'était sur
Boulbi.
Ouais. Parce que moi, je trouve que c'était en fait un accomplissement d'une carrière, mine de rien. C'est-à-dire que finalement, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Malgré tout ce qu'il a pu y avoir dans sa carrière, les albums que les gens ont appréciés, des albums que les gens ont moins appréciés, les clashs, les ci, les ça, c'est là où tu te rends compte que quand même, plus de 20 ans de carrière, avec une discographie aussi conséquente, beaucoup de classiques, il y a même des morceaux qu'il a pas forcément joués. Peut-être que c'est pas...
Est-ce que c'est pas un point négatif, justement?
Bah, en fait, j'ai envie de te dire...
Dans les commentaires, en tout cas, de ceux qui étaient pas, il y a beaucoup de trucs qui ont été sur les réseaux sociaux, justement. Mais après je me dis, plaisir à tout le monde.
Moi, je me dis, sur 20 ans de carrière, tu peux pas tout jouer non plus.
Parce qu'il y avait 70 morceaux, je crois, au final. Environ 70 morceaux, je crois, si tu comptes les medley et tout. Voilà. Donc, c'est déjà énorme.
Ah, mais dans le medley... Moi alors, je vais vous laisser finir, mais dans le medley, j'ai eu beaucoup d'échos. Il y avait des gros classiques qu'on aurait aimé entendre, qu'on n'a pas assez entendu. Ouais. Parce qu'on peut pas le dire.
Mais après ça, est-ce que c'est pas toujours, tu peux pas, je veux dire, pas plaire à tout le monde, mais en soi, il y a toujours des gens qui seront déçus de quelque chose. Tu vois, ce genre, t'as 20 ans de carrière, tu peux pas plaire à tout le monde et faire tous les titres. Après, niveau, si on part de Seno, le show en lui-même, de toute façon, bah, ça a jamais été un artiste qui fait des gros shows où il va faire, je sais pas, des danses ou des trucs, des feux. Non, c'est lui le show en vrai. C'est lui les invités qui ramènent, la connexion qu'il a avec son public.
Il arrive, il lève le bras et c'est bon.
C'est ça aussi. T'as vu ses fans contents et surtout les fans avaient différents profils. Et franchement, ça m'a interpellé et pour le coup, on a fait beaucoup de concerts. Et j'ai rarement vu un concert où t'avais des jeunes, des moins jeunes. Tu vois? Peut-être pas des papis, des mamies, mais en tout cas, beaucoup de profils. Et surtout, t'avais, peut-être des profils, entre guillemets, bien sûr, quand on dit ça, assez bobos, t'as l'impression. Mais après, va identifier un bobo, j'aurais envie de te dire, mais assez bobos. Et des mecs de cité agités, ils étaient à fond. Et tout le monde était en mode, ah, on kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vois aussi la réaction des gens autour de toi, c'est là que tu te rends compte qu'il se passe quelque chose. Tu vois? Okay. Donc, c'est.
Il y avait deux. Donc, ça, c'est le côté positif. Céline?
De vue d'extérieur, en tout cas, ouais. Le show avait l'air incroyable. Dans les points, justement, que je voyais beaucoup ressortir, en tout cas sur les réseaux aussi, c'est évidemment les featuring. Je crois que voilà, il y en a eu, mais visiblement, ça n'a pas été au goût de.
Qui t'aurait aimé voir?
C'est vrai que Ali, on aurait tous voulu avoir cette séquence avec Ali. Et je pense que c'est des moments justement cultes comme ça qu'on aurait aimé aussi voir même sur les réseaux sociaux, tu vois, d'avoir ces trucs-là gardés dans les archives.
Et chroniqueur, du coup. T'en as pensé quoi, toi, globalement?
Tu peux pas satisfaire tout le monde. Je pense qu'à un moment, il a fallu faire des choix. Moi, j'ai été frustré de certains morceaux qui n'ont pas été joués. Mais limite, peu importe. Bah, y a eu beaucoup de morceaux qui étaient dans le medley. Pour moi, c'est des morceaux qui auraient été mérités d'être joués en entier. Mais d'un autre côté, quand il enchaînait les morceaux, limite, je me disais, ah oui, c'est vrai, il y a celui-là aussi. Ah ouais, puis il y a celui-là aussi. En fait, je me rappelais même pas qu'il avait autant de hits. Ouais. Et même le medley, il aurait pu tenir un concert entier juste avec le medley. On n'aurait pas été dupé.
Ça a duré combien de temps, le medley?
C'était pas des morceaux du gouffre, quoi.
Ça a duré 10 minutes,
hein. Ouais,
10
minutes. Ça a duré les 3 secondes parties, c'est ça?
10 minutes, c'était 10, 15 secondes, même un peu plus, je crois, par
ça dépendait des morceaux.
Il a pas joué ça, il a pas joué ci, il a pas joué ça. Moi, je pense qu'il a joué beaucoup, mine de rien. Le titre que même, comme il dit un peu chroniqueur, on avait peut-être oublié, on avait mis de côté. Ah ouais, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc, moi.
Non, il a joué beaucoup de morceaux.
Alors, les gens auraient voulu plus de classiques et qu'il y ait plus de place pour les classiques. Le classique, premier, deuxième, troisième album, quatrième même, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'était parfait, la tracklist?
Donc, ça dépend ton âge, en vrai.
Ouais, en tout cas, moi, selon ma perception...
Selon
ma perception, c'était correct, en vrai de vrai. Il n'y avait pas... En vrai, bien sûr qu'il manque des classiques, mais quoi, peut-être...
T'as tout chanté à tue-tête?
Non, je ne chantais pas à tue-tête, je regardais les gens, je filmais aussi un peu, et je me disais pas, et je me disais aussi, comme chroniqueur, ah ouais, mais il y a celui-là aussi. Je suis un carrément, je te jure qu'il y a des sons avec mon gars, quand on est parti, on avait zappé, on savait même pas, tu sais, on avait même plus dans notre tête que
il y avait ces sons. Moi, ça me faisait ça très souvent.
Je pense qu'il y avait plus de classiques déjà que ces précédents concerts.
Ok.
Nico.
Moi, en vrai, bon, les points positifs, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est cette consécration, en vrai. Chaque année, on se dit, bah, c'est lui, la longévité, c'est lui, le truc, c'est lui, tu vois. Et là, bah, il finit au Stade de France, tu vois. Donc, il n'y a pas plus gros symbole en France pour un rappeur français que de finir dans ce stade mythique, en vrai. Tu vois, donc, déjà, le point positif, il est là. Après, en vrai, sur les featuring, moi, tu vois, je me pose une question, parce que tu vois, Booba, il a toujours eu cet état d'esprit américain, tu vois. À l'époque, je me rappelle, il faisait des interviews où il disait qu'il avait proposé à Rov de sortir le même jour, etc., sur des albums, etc. Je me dis, est-ce que sur les featuring là, du concert, est-ce qu'il est, il l'a pas proposé?
C'est ce que je me suis dit aussi.
Est-ce que Booba a proposé à certains artistes avec qui il est en clash, viens, on le fait au Stade de France, tu vois,
c'est une question pas.
Que en je clash, me pose. Non, mais peut-être qu'il a proposé à Ali et qu'Ali Olivier.
Voilà, c'est
non,
peut-être moi la question, c'est exactement ça, c'est Ali.
Ouais, parce il avait déjà proposé, je crois.
Il a refusé
un concert, je crois, je me semble que c'était au Bercy au dernier. Ouais, il n'avait pas forcément répondu, ou je crois qu'il avait dit non. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait une proposition, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que, je me dis, peut-être pour Ali, il a peut-être proposé.
Mais pour les autres, non.
Mais en tout cas, pour ceux avec qui il est en gros clash, genre Caris, tout ça, ouais. Je pense
non,
pas.
Non, okay. Je pense que là, faire monter sur scène.
Je me suis dit, peut-être que, tu vois, lui, comme il a toujours eu une vision plus entertainment, etc.
Ouais, mais les Caris font pas ça.
Y en a qui se réconcilient sur scène.
Ils seront pas réconciliés, et puis ils montent pas sur scène. Enfin, s'ils montent sur scène, c'est qu'vraiment, ils ont fait la paix avant, les Caris, sinon. Non. Mais du coup, Booba, il serait réconcilié avec qui comme ça sur scène?
Non, mais en fait, j'ai pas une réconciliation. Proposition de venir le faire sur scène. On lui demande pas de se réconcilier, tu vois. Mais après, c'est une question que je me suis posée. J'ai pas dit qu'il avait proposé des réconciliations à tout le game, tu vois. Les featuring, ça a manqué, mais peut-être
que. Non, mais c'est vrai que ça aurait été ouf de faire Kalash.
Bah oui.
Tu vois, en fait, c'est le truc de se dire.
Ça aurait été incroyable.
Il a peut-être ce côté, d'après ce que j'ai pu voir, constater, etc., ce côté entertainment, mais il a sûrement aussi et surtout ce côté loyauté jusqu'au boutiste qui fait que. Il est arrivé jusque-là avec ses gars, avec son équipe. Certains ont été dans le bateau, certains ont été expulsés du bateau, certains se sont expulsés du bateau tout seuls, ils ont coulé. Bref, mais en tous les cas, pourquoi il aurait invité des mecs avec qui il ne s'entend pas ou plus? Parce que la nostalgie du truc. Moi, je pense qu'il a plus le côté loyauté, t'es avec ou contre moi, que le côté fédérateur pour rien, juste pour faire les mecs, on est sympathique.
Non, mais
je rentre dans les hypothèses. Hein,
pour revenir sur ce que Céline disait, et vous rebondirez, c'est par rapport à Ali. C'est-à-dire, il n'y a pas
de. Je suis par rapport à Ali.
Mais donc, on aurait aimé.
Indépendamment d'Ali.
Si et même Kaina Samet, ça a été l'un des moments les plus repartagés.
Mais parce qu'ils ont. Et je pense que.
C'était magnifique.
Je pense qu'ils entretiennent peut-être de bons rapports, ce qui fait que. Mais si t'as moins de bons rapports. Je l'ai trouvé, en tout cas, par rapport à beaucoup de moments sur scène. Enfin, j'ai trouvé très euphorique, heureux, et surtout, il y avait son équipe en soi. Peut-être pas les featuring qu'on aurait voulu, nanana, mais il y avait ses gars en vérité, des gars qui sont avec lui depuis
des années.
Le 9-2, il en a beaucoup parlé, il y avait ses artistes. Mais en soi, pour lui, c'était une grande fête parce qu'il y avait ses gars et son équipe. Je suis pas sûr qu'il manquait grand-chose dans sa conception de pirate. Tu vois ce que je veux dire, Robert?
Parce que nous, c'est plus pour la symbolique, à la limite, ce que tu mets.
Ah, mais les symboliques qui sont fake.
Oui, non, mais bien sûr. Puis même, il y a trop d'ego, il y a trop de passif.
Okay. Ouais. C'est peut-être là où je te rejoins sur les Quinries, c'est que pour le symbole, les Quinries auraient ramené, tu vois, Ali, recréer le truc, tout ça. Finalement, là, on a le Stade de France. On sait que c'est une forme de fin d'épisode, enfin, c'est une fin d'une ère. En réalité, il n'a pas arrêté le plus rare, tu vois. Il y a eu aussi Ultra qui l'a annoncé. Il a annoncé que c'était le dernier album. Mais même dans ton interview, finalement, il a laissé...
Il a laissé une porte ouverte, toi.
Il a laissé une porte ouverte.
Il a toujours une porte ouverte. J'ai l'impression qu'il n'y aura jamais vraiment une fin. En fait,
déjà,
même pour lui, parce que je pense que même pour lui, humainement, il se dit, je ne suis pas à l'abri qu'un jour, je me réveille, en fait, j'ai envie de balancer un morceau de ouf ou de me dire...
Je pense que
même pour lui, il a pas envie de se limiter, de se dire aussi... je suis libre en réalité, tu vois. Si là maintenant j'ai envie de faire moins de trucs, je vais le dire, ok, je l'ai annoncé. Mais si demain je me réveille et que j'ai une putain d'inspi et que j'ai envie de sortir un truc, voilà, je peux le faire, quoi. Mmh. Et on va pas me tomber dessus parce que j'avais dit fin de carrière ou quoi, tu vois.
C'est comme un mec qui fait du dessin. Il fait, si t'es passionné par le dessin,
tu t'arrêteras jamais.
Tu dessines jusqu'à la fin de ta vie.
Ouais.
Tu sais, vouloir tout le temps être branché, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il a tenu. C'est-à-dire que se mettre à jour, se mélanger, il a toujours régénéré ses équipes, visuellement et au niveau même du son. Indépendamment des clashs, de tout ce qu'il y a, de tout ce que tu truques, musicalement, il a toujours été dans le jus. Et le fait d'être dans le jus, ça fait que t'es pas éteint. Bon, après, il y en a qui peut-être tentent et c'est plus compliqué de rester dans ce jus-là. Mais il a toujours été dans ce truc de je reste connecté. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, on en parle. Il commence, je crois, avec Temps Mort. Aujourd'hui, il finit avec Ultra. On en parle encore parce qu'il y avait toujours cette volonté d'être à jour.
C'est pas totalement une fin. Mais si ça devait être une fin, est-ce qu'on est sur une fin réussie ou pas?
En vrai, un mec qui tire sa révérence au Stade de France plein, 80 000 personnes, je pense que si on dit que c'est une fin ratée, c'est qu'on...
Il y a un problème.
Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. Après, je pense qu'on est plus pointueux sur des trucs de « Ah, mais il n'y avait pas les feats ». Tu vois, si on se focus sur le Stade de France pour faire un ensemble, pour faire un bilan de sa carrière, c'est « Ah, mais il n'y avait pas les feats ». Donc, en vrai, belle fin de carrière. Belle fin de carrière parce que tu finis au Stade de France. Après, oui, il y a ces clashs-là qui sont intervenus dans sa carrière, qui lui ont permis aussi d'être là, d'exister à des moments aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des petits points noirs, des fois, qui, sur sa carrière, tu te dis « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi celui-là ?»
C'est toi actuellement, ouais. Quoi.
En fait, quand tu fais le bilan et que tu dis « Putain, les gros morceaux qu'il y avait avec ces mecs-là » quand tu fais le parallèle avec le Stade de France, tu dis « Mais imagine ce soir au Stade de France. » Tu vois, tu prends Caris, tu prends des Damso, tu prends... Tu vois, et au final, après, tu te dis « Pourquoi ces clashs ?» Tu vois. Après, c'est des trucs où on n'a pas forcément toutes les informations aussi, tu vois. Donc moi, j'aime pas dire « Ouais, mais il aurait pas dû clasher un tel. » Moi, j'en sais rien, tu vois.
On n'a pas parlé, mais reste en chien sur scène.
Reste en chien,
ça aurait été incroyable.
Et que Sini, tu démarres.
Mais ça aurait été incroyable. Le Stade de France, c'est beau, mais en dehors de ça, il y a son apparition sur les réseaux sociaux, sa manière de gérer, et l'album Ultra en lui-même. Est-ce que, quand tu écoutes Ultra, est-ce que tu dis « Ok, ça, c'est un album qui boucle la boucle ?»
Moi, tu vois, j'étais de ceux qui auraient aimé qu'il n'annonce pas Ultra comme un dernier album, tu vois. Et plutôt qu'il laisse cette porte ouverte de « si vous dites que c'est le dernier, c'est le dernier ». Parce que Ultra, c'est vrai que le projet est bon. Tu vois, le projet est bon. Il y a des morceaux que j'écoute, il y a des morceaux que je réécoute. Mais tu vois, tu compares toujours avec des projets à eux d'avant. Tu te dis « Ah, mais tu me dis Nero Nemesis, c'est le dernier projet ?»
C'est incroyable.
Oui. Je te dis « Oui, tu vois, c'est le dernier, tu pars sur Nero Nemesis, je suis content. » Tu vois, Ultra, j'étais un peu sur ma fin. J'aurais aimé que ça ne soit pas annoncé comme un dernier album.
Peut-être que c'est le fait aussi qu'on savait que c'était du coup le dernier album qui fait aussi que ça nous a mis
une attente.
Ça biaisait un peu notre avis, entre guillemets, je pense aussi. Je pense que si on ne savait pas, qu'on aurait apprécié différemment aussi le projet, ou il aurait été apprécié par le plus large public d'une manière différente, en tout cas. Mais je pense que ça, c'est que ça a biaisé de ouf notre avis.
C'est ça, en fait, c'est que ça crée une attente trop forte. Même quand il avait annoncé le track listing, les gens étaient en mode. Oh, mais les featuring, t'as mis que les gens de ton équipe, il n'y a que Bramsito, que SDM, truc. Ben oui, au final, c'est son dernier album, il va faire croquer les siens, c'est normal, tu vois.
Pour le public, ça a apporté direct d'autres exigences, quoi, tu vois. Donc,
c'est ça. Et en fait, quand tu fais la comparaison, un mec comme Caris, par exemple, quand il annonce Hors Noir partie 3, pareil, tu vois, t'es déjà dans une attente.
Ouais.
Tu vois, t'attends qu'il se passe quelque chose, et après, quand ça sort, tu dis. Mais c'est. Ouais. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Pourquoi t'as dit que c'était celui-là? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'à l'avenir, je me dis. J'aimerais plus que les artistes, enfin, en tout cas sur un dernier album, qui sortent le projet, qu'on l'écoute, et après ils disent c'était le dernier celui-là. Ouais. Tu vois, et peut-être qu'on aura une approche différente de ce projet-là.
C'est vrai, mais c'est un argument marketing de dire que c'est le dernier.
C'est bien sûr.
Je vais vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus. Je trouve que Booba, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à capter quels étaient ses classiques. C'est-à-dire, nous, on adore les morceaux. Il y a certains morceaux qu'on adore, vous me regardez avec un air comme ça. Non, mais nous, on est fans, on est des. Enfin, moi, je parle pour moi, je suis un pirate, par exemple, j'adore ce qu'il fait. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on regarde le Stade de France et quand j'ai regardé en stream ici et là, on se dit « Ah tiens, il y a tel morceau que j'aurais aimé voir ». Pareil pour Ultra. Ultra, on se disait aussi, peut-être qu'on aurait voulu qu'il boucle la boucle en ramenant certaines personnes, je sais pas moi, peut-être Lino ou d'autres artistes, pour finir sur une belle note. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez qu'Ultra, c'est...
Et moi, en fait, après, c'est peut-être parce que c'est le côté professionnel des choses où tu vois au coup ou qu'est-ce. Moi, je fais en sorte de pas me faire brancher, comme on dit, par la hype marketing.
Moi, je veux que ce soit toi. Je veux que ce soit Kersh, pas le professionnel.
Voilà, non, mais justement, c'est sûr. Et même Kersh, je t'enlève le côté professionnel. Moi, je suis plus un mec qui va écouter les choses plutôt que de me fixer sur mes attentes. En fait, je m'attends à rien, j'écoute seulement. Et ça fait bien longtemps, de façon générale, que j'écoute pas les projets en me disant « Ah, c'est The Project », tu vois. Par exemple, moi, Ultra, de sa discographie, je crois que c'est un des albums que j'ai le moins apprécié. Comment je vois ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié? Alors, juste le nombre de titres que j'ai apprécié, que je réécoute ou quoi au caisse. Mais ça veut pas dire forcément que le prochain projet va pas me le prendre ou quoi au caisse. Et même quand tu dis « Ouais, il sait pas les classiques que je vois où tu veux en venir. »
C'est un fan qui parle.
Mais voilà, c'est ça. C'est que moi, je pense que des fois, soit on émotionnalise trop les choses, on intellectualise trop les choses. Dans le sens, il fait son son, il envoie, t'aimes, tant mieux, t'aimes pas, tant pis. C'est-à-dire que moi, Ultra, je l'ai moins écouté, mais je vais écouter des Panthéons, des Temps Morts, quand je peux écouter du Lunatic. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, une discographie, même si là, tu fixes sur Ultra pour le côté clap de fin.
Ouais.
Moi, déjà, je vois pas ça comme un clap de fin, donc c'est pour ça que déjà, qu'on en décache, parce qu'il y a jamais réellement de fin, je pense, pour un artiste, même pour un acteur ou quoi que ce soit. Mais moi, je vois plus la discographie d'un artiste comme des liens entre ses projets et des sons que t'as appréciés à un certain moment, qui te rappellent certaines choses ou que t'as écouté qui te plaisent, plutôt que album par album. Parce que si tu fais album par album, bah, bien sûr qu'en fait, à un moment donné, il y a tellement de sons qui sortent aujourd'hui, c'est compliqué, moi, de façon générale, de kiffer un projet. Tu vois ce que... Et c'est même pas de la langue de bois, c'est vraiment dans le sens où...
Tu kiffes des singles, quoi. Plus des singles.
Ouais, des singles ou des morceaux forts qui, à un moment donné, te parlent pour X ou Y raison. Mais t'as vu le côté... Après, moi, je peux comprendre, comme il dit Nico, la hype, le marketing. Ouais, j'attends le dernier, mais moi... personnellement, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. J'étais plus en mode, j'attends de voir ce que ça va donner. En fait, il n'y avait pas d'euphorie particulière parce que je pense, de façon générale, même dans l'art ou quoi, quand t'attends trop quelque chose, t'es forcément déçu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu le prends comme ça et t'apprends à l'apprécier ou quoi, et bah, t'aimes ou t'aimes pas peut-être sur la durée et basta. Et moi, je pense que c'est pas impossible qu'ils sortent un autre projet aussi par là.
Je pense aussi. Ouais. Chroniqueur sale.
Pour moi, c'est pas un mauvais album. Après, effectivement, si t'étais dans l'attente de quelque chose un peu plus dans l'émotion, tu vois, si t'es un romantique comme moi, tu veux que sur le dernier morceau, il y ait Ali. Surtout qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux que je sache.
Ouais.
Je pense que Booba, il se dit, c'est pareil pour les invités au concert, ouais, etc. Je pense que il peut pas refaire l'histoire. Tu vois, il y a des trucs qui se sont passés, ça s'est passé. C'est derrière lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours regardé devant.
C'est pas un nostalgique du tout.
Voilà, il est pas dans le côté émotion, nostalgie, mélancolie, et capitaliser là-dessus pour qu'il se passe quelque chose. Nous, en tant qu'auditeurs, on est dans cette nostalgie-là, on a envie de qu'il se passe quelque chose, tu vois. Mais en vrai...
storytelling. En fait, on veut ça, tu vois. On veut ça parce que...
Mais lui, il est pas là-dedans.
C'est ça.
Mais il s'en fout.
Il s'en fout, il est pas dans ça. Lui, en fait, c'est l'efficacité. Je donne ce que j'ai à donner.
Et dans le présent, surtout.
Et puis, oui, il est dans le présent, dans le futur. Mais je suis pas sûr qu'il regarde en rétro plus que ça, quoi.
C'est pour ça que je disais qu'en quelque sorte, il s'en fout des classiques, dans le sens où nous, ça nous ramène à une époque où on s'attend à voir certaines choses et qu'il refasse l'histoire. Mais lui, il est pas du tout là-dedans.
Pour revenir sur ces histoires de morceaux au Stade de France, etc., je pense aussi que il s'est fait un kiff.
Ouais, tu
vois. Exactement.
C'était plus un kiff perso. Parce que, tu vois, il l'a dit en interview avec le chroniqueur sale, tu vois, c'est, je fais d'abord ce qui me plaît, tu vois, avant que ça plaise au public, etc. Tu vois, et bien sûr que ça doit lui plaire à lui d'abord. Et je pense que là, c'était, ça y est, c'est le dernier. En tout cas, c'est le dernier de cette envergure-là. Je vais faire les sons que moi, je kiffe. Peut-être les sons dont je me souviens aussi, tu vois, parce que ça aussi, en vrai. Tu vois, t'as rappé un son il y a 20 piges, pas sûr que tu puisses le rapper en entier là, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu une sélection qui a été faite comme ça, sans forcément se dire, ouais, mais le public, il attend celui-là, parce que sinon, en vrai, tu t'en sors pas. Tu mets pas d'accord 80 000 personnes, tu vois.
Ouais.
Donc, je pense qu'il s'est dit, vas-y, on va kiffer avec le 9.
Et puis, moi, j'étais avec quelqu'un qui avait quasiment 20 ans de moins que moi.
Mmh.
Et en fait, lui, il a rien eu à redire sur la sélection des morceaux, par exemple.
Il était satisfait.
Complètement. C'est pour ça que je disais que c'est aussi une question générationnelle.
Ouais,
les souvenirs que t'as peut-être envie de les voir, surtout si c'est censé être la fin, etc. Mais ouais, compliqué de mettre tout le monde d'accord sur 25 ans, quoi.
C'est clair. Et justement, on est à peu près d'accord que Ultra ne sera pas son dernier album. Mais justement, le fait qu'il n'est pas totalement arrêté, et même le fait qu'il va parfois envoyer des petits pics à des artistes comme Nino en disant « Ah, t'es le numéro 1, bah, prouve-le que t'es le numéro 1, etc. etc. » Ça montre en fait qu'il est toujours à la course au titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou il est réellement prêt à laisser, entre guillemets, le trône?
Bah, il a toujours été dans cette compétition positive, j'ai envie de dire. Il a toujours eu ce truc de challenger les autres, de les pousser à bout dans n'importe quel moyen, que ce soit positif ou négatif. En fait, je pense qu'il a toujours ce truc de compétition, de rester le numéro un. Et du coup, d'envoyer des petits pics aussi. Et puis en plus, il dit aussi plein de choses positives sur Nino, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, donc il a dit plein
de fois. Il a toujours dit que c'était le meilleur de sa génération.
Exactement, tu vois, donc il s'en cache pas. Donc en fait, je pense que pour lui,
il est pas émotif. C'est ça que tu veux dire aussi?
Bah, il est dans ce truc de compétition. Choses. Je pense qu'il aime bien ce truc de compétition aussi, comme un sportif.
Ouais.
Tu vois, c'est comme un sportif, tu vois, t'as envie de rester numéro 1. Et si tu peux envoyer un petit pic, c'est comme quand il a dit pour le Stade de France, laisse l'ancien savourer un peu son Stade de France, après tu pourras annoncer le tien si tu veux, Nino, tu vois. En mode, bah voilà quoi, tu vois, alors, je reconnais que t'es plutôt pas mal dans le domaine, ouais. Mais c'est toujours ce truc de compétition, il a toujours été dans ce truc-là, donc moi ça me choque pas.
En fait, moi, de ma perception que j'ai de Booba de l'extérieur, je trouve que ça a l'air d'être une personnalité assez tiraillée. Même dans sa tête, tu vois. Parce que quand je regarde l'interview avec le chroniqueur, on sent qu'il a envie de laisser. tu vois, que vas-y, ça y est, je vais me consacrer à d'autres choses, je vais produire par-ci, par-là, etc. Je vais laisser un peu le truc, tu vois. Et je finis l'interview, après je vais sur Twitter, et je vois qu'il est actif de fou. T'as l'impression que parfois, il y a un côté de lui qui veut laisser le truc, tu vois, ça y est, genre, moi j'ai fait, faites maintenant. Mais quand il y a un gros son, quand il y a un gros truc qui sort, il est obligé d'envoyer une petite pique. Parce qu'il y a son âme de compétiteur qui est toujours là, son âme de passionné de rap, et son truc de se dire, bah, tu vois, on parlait de Nino tout à l'heure, bah, pourquoi on va pas sur un morceau ensemble, tu vois? Ouais. On plie le truc, mais parfois, bah, peut-être qu'il y a peut-être même de la maladresse dans la pique qui fait que l'autre, bah, il va mal le percevoir aussi, et qu'il va se dire, mais lui, il m'attaque, tu vois? C'est un tout, en fait. Mais je pense que je pense qu'il sait pas encore ce qu'il veut, en vrai. Parce que, ouais. Tu vois, c'est comme le mec qui fume une cigarette. Le jour où il veut arrêter, il arrête. Ouais. Mais quand il est pas sûr de lui, mais j'en fume qu'une. Lui, je pense qu'il sait pas encore s'il veut arrêter ou s'il veut attaquer encore. Donc, je pense qu'il se fait encore plaisir sur certains sujets, tu vois.
Après, c'est peut-être dur aussi d'arrêter quand tu vois que tu remplis encore un stade. Et voilà. Parce que là, c'est pas un jubilé.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est pas comme NTM, ils remplissent les zéniths alors que ça fait 20 ans qu'ils foutent plus rien et c'est Christine de la Conta qui a envie d'y aller parce qu'elle se rappelle qu'elle dansait sur la fièvre il y a 25 ans, tu vois ce que je veux dire? En mode, il fallait y être, ouais, j'adore le rap, NTM, trop lourd, tu vois. Non, là, c'est 25 ans de carrière, il le remplit là, tout de suite maintenant, il est encore actif.
Après la question.
Et là, te dire là, je raccroche. C'est dur.
Après, je te pose une question, c'est est-ce que tu penses qu'il peut en remplir un deuxième?
De ouf!
Moi, je pense qu'il l'a fait une fois, avec tout ce que ça a généré d'attente, de discussion, ceux qui étaient pas, machin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il en a lancé un deuxième, il l'a rempli.
Je pense que ça. Le premier, il a fait de la promo au prochain.
Ouais.
C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai envie d'y aller.
Voilà, moi, j'irai, tu vois, direct.
Ouais, de ouf.
Bon, là, on a fait le tour un peu de la fin. On va plutôt rentrer dans la carrière en elle-même. On est sur 25 ans de carrière. Là, aujourd'hui, comme ça, de tête, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont les plus marqués? Et si oui, lesquels? Et quels sont les pires aussi moments pour vous de la carrière de Booba? Les bons, c'est facile, mais les pires.
En fait, moi,
j'ai hâte de vous entendre.
Je sais pas si ce que je vais te dire, tu le vois en pire ou en bon, vous allez me dire. Ouais. Il y a si longtemps, si quand même. Je pense que c'était un des premiers rappeurs street à ce niveau-là à utiliser l'autotune. Et ça avait fait beaucoup polémique à l'époque. Bien sûr, il y a d'autres artistes qui l'avaient déjà utilisé.
France, c'est le premier. Hein.
Non, je crois qu'il y avait d'autres artistes. L'artiste, il utilisait déjà l'autotune, tu vois. Mais je te parle vraiment dans un créneau de rap street avec une imagerie assez street. Je crois que c'était le premier à l'utiliser. Ça avait fait polémique. Mine de rien aussi, c'était un des premiers dans tout ce qui est américanisation. Bling bling, etc.
Image.
Voiture, rappelez-vous du clip de Baby, je crois que c'était avec Nesby. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu des choses où les gens avaient été interpellés et pendant longtemps, il y a une partie de gens qui appréciaient, il y a une partie des gens qui appréciaient moins.
Bah, même avant, si tu prends, excuse-moi de te couper, si tu prends pas le temps pour les regrets, tu vois avec des grilles, tu vois l'ambiance, ça fait très bien.
Il y avait une espèce d'incompréhension, tu vois. Après, je sais pas comment tu l'as vécu de Chris aussi, mais il y avait peut-être un décalage, ceux qui n'étaient pas forcément dans cette culture américaine. Ouais. Il y avait un, américaine.
Donc,
de bling bling, de Mobb Deep, etc. Cette ambiance-là, bah, il y a des gens qui ne validaient pas forcément. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aussi, et il a ouvert une porte en soi, une école du fait d'être décomplexé sur l'argent, par rapport à gagner de l'argent, le fait d'être indépendant aussi dans le rap. C'est-à-dire que ouvrir une structure, développement de l'image aussi. Très important, tu vois ce que je veux dire. Les clips arrivaient comme si c'était pas des clips de rap français qu'on avait l'habitude de voir. Donc, je pense que sur tout ça, il y a eu, je sais pas si, zéro, l'autotune, tu le mets dans les points négatifs. Je sais pas si l'américain,
positif.
Tu le mets dans. Enfin, peut-être aujourd'hui, on se le dit, mais à ce moment-là,
Oui, ça faisait débat.
Il était décrié, etc. Et même, justement, il me semble qu'après 09, l'album, il avait eu, sur le coup, je crois, des retours mitigés. Au même moment, Ruff, il sortait le Code de l'horreur. Et justement, à ce moment-là, après, il est revenu avec la mixtape A3. Et il est revenu avec double poney, un peu pour mettre les pendules à l'air, etc. Mais il a continué avec l'autotune. Mais il y a toujours eu des moments charnières où il a dû, peut-être, d'une certaine manière, avoir sa direction, forcer, risquer, tenter des choses.
Ouais, il a ouvert des portes aussi, ouais, tu vois. Et comme tu disais, pour d'autres artistes, comme je pense là aussi à Validé, ouais, il y a eu un moment où Validé, tout le monde était choqué de ce titre. Et ouais, ça avait donné tout de suite une autre dimension parce qu'il y avait ce côté dansant. C'est au moment où on parle aussi de Zumba.
C'est Scarface avant, voilà, encore même.
Il y avait Scarface, mais Validé aussi, ça avait franchement parlé, tu vois. Ouais. Au final, il a ouvert des portes parce qu'après, il y a eu plein de Validé.
Est-ce que, d'après toi, il n'a pas ouvert une porte au rappeur street en quelque sorte et leur proposer justement de faire des morceaux un peu différents pour passer en radio.
Il a contribué à ça, c'est sûr, il a contribué.
Parce que finalement, à cette époque-là, je pense 2010, 2011, 2012, dans le rap français, voir un gars arriver de la street, faire de l'autotune et faire ce genre de morceaux, c'était assez rare. Donc quelqu'un qui fait ça et ça fonctionne pour lui, il est street, ça peut-être autoriser, enfin ça peut-être libérer quelque chose auprès des rappeurs français et ça leur a peut-être donné envie finalement de se dire ok, bon bah en fait je peux être street et faire ce genre de morceaux, passer en radio et remplir
le comme dans tout, quand c'est nouveau, au début ils ont tous fait un peu, enfin je pense qu'il y en a plein qui ont été en mode oula, c'est quoi ça et tout, qu'est-ce qu'il nous fait. Et puis après, bon bah comme dans tout, on rentre dans le truc, quoi, tu vois.
Ouais, si ça marche, mais
c'est toujours des gens qui se à la nouveauté.
Et du coup, Céline, les pires moments, tu m'as pas dit les pires moments.
Bah justement, moi peut-être les pires moments, et peut-être après ça c'est le concert de Stade de France, Urban Peace, je pense aussi le bouteille de Jack, mais c'est pas vraiment un pire moment, je pense. Moi je pense aussi, un des moments charnières à un moment donné, c'est au moment où, à l'époque, le clash avec Ruff éclate. Parce que c'est soit tu réponds et vous lancez dans des infectives et vous vous lâchez pas, ou soit au début il a pas répondu, je crois que c'était Wajulek, il a pas répondu, il est revenu avec, je crois que c'était Milan AC. Il est arrivé, il a répondu, mais à ce moment-là, je pense que les deux savent d'une certaine manière qu'ils jouent leur carrière. Ouais. Qu'à un moment donné, parce qu'on va pas se mentir,
ouais, mais en français. C'est pas aussi, parce que tu vois, pour moi, hein, la période des clashs, cette période-là, pour moi, c'est la meilleure. Parce que on était,
oui,
dans un truc où c'était de la musique.
Mais toi, Nico,
même si ça s'insultait un peu sur les réseaux, etc., ça allait quand même en studio, ça nous sortait des sons, etc. Tu vois, c'était des distracts, c'était stylé.
Toi,
tu dis ça, Nico, parce que t'étais justement, et nous aussi, on était en observateur, en fan, en suiveur du rap français, etc. Mais quand à ce moment-là, il y a les clashs, personne ne peut savoir, à part chacun, s'il a apprécié tel ou tel artiste, qui finalement va s'en sortir. C'est technique. À ce moment-là, en fait, si tu te loupes, c'est fini. En vérité, t'es un rappeur street, t'es clashé.
Ouais, mais après, c'est le jeu.
Oui, mais, ouais, mais en fait, c'est le jeu du clash. C'est que répondre à un clash, surtout à ce niveau-là, les deux fanbases, peut-être pas les fanbases, mais les deux artistes, on savait qu'il y avait plus ou moins des animosités, ouais, qui n'étaient pas forcément déclarées. À ce moment-là, quand t'acceptes de répondre à ce clash, tu ouvres une porte, tu sais pas ce qui va se passer avec.
Après, oui,
mais tu vois, c'est un peu, excuse-moi, parce que je me dis, c'est un peu hypocrite, parce que, enfin, en soi, de se dire que les clashs, c'est une partie négative, parce qu'en réalité, Booba sans clash, maintenant, tu penses, tu dis.
Ouais, tu te fais un peu chier.
Oui, mais.
Non,
musicalement, je parle.
Hein. Il
m'a demandé. Tu penses. Oh, j'ai les clashs à Booba, tu vois.
Oui, sauf que non, mais en fait, il y a les clashs et le clash. C'est pas la même chose.
Ouais.
À ce moment-là, il m'a demandé. Mais bien sûr que oui. Il m'a demandé.
Les pires moments. Mais justement, toi, en tant que fan. Parce que toi, par exemple, le clash avec Booba.
Moi, je pense que c'est pas un.
Avec Booba, avec Ruff, pardon.
Avec Ruff. Mais en fait, c'est un moment charnière.
Oui, mais toi, en tant que fan, quand t'écoutes tout ça, t'es en mode, tu kiffes cette période ou tu détestes cette période?
Franchement, honnêtement. En vrai de vrai, au début, tu kiffes. Au début, tu kiffes parce que tu te dis, enfin, on va voir.
Ouais.
Enfin, on va voir. Depuis, vous nous dites tac, 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 peut-être par des morceaux, peut-être poser des pics, nanana. Donc, on va voir qui a ce trône que finalement, d'une certaine manière, commercialement, en termes d'image et en termes de plein de choses, vous concurrencez depuis certaines années. On va pas se mentir. Ça veut dire que quoi, à un moment donné, tout le monde attendait ça, en soi. Ouais. Genre, et quand ça pète, parce qu'on dit les clashs, mais il y a les clashs, on rigole vite fait, nanana. Et ça, c'était le premier gros clash d'artistes de même calibre. Et finalement, personne ne pouvait savoir qui allait tirer son épingle du jeu.
Et puis, c'était un truc qui datait aussi, surtout. C'est un truc
voilà, des animosités,
qui remontait à des années.
Tu vois ce genre, bah, donc pour le coup, c'est quelque chose.
Ok. En vrai. Et vous, les meilleurs et les pires moments, selon vous?
Non, mais déjà, je vais te répondre très clairement sur ces deux points-là. Mais pour revenir sur les clashs, moi, je suis pas sûr qu'il y ait un truc aussi, un, aussi important, aussi définitif. Parce que finalement, le clash, ça a mis de la lumière sur les deux artistes. Je suis pas sûr qu'il y en a un qui va être éteint ou pas à cause du clash. À un moment donné, c'est à eux de savoir rebondir. Parce que de toute façon, dans les clashs, il y a toujours un moment, il y a pas beaucoup de gens qui sont objectifs.
Ouais.
Je pense pas que les gens, ils étaient vraiment en train de savoir qui a bousillé l'autre.
Mmh.
C'était juste soit t'étais team de l'un, soit t'étais team de l'autre.
Concours de popularité.
Mais oui, je suis pas sûr, à part vraiment les gens qui prennent ça avec du recul et qui sont vrais et qui se disent, OK, ça va jouer sur le terrain rap. Mais les trois quarts des gens, en fait, ils ont juste déjà choisi leur camp. Ça met de la lumière sur le clash, sur les deux artistes, etc. Après, gérez votre buzz, les gars, tu vois. Ben, je suis pas parce que quand il y avait Nas contre Jay-Z, pour moi, personne n'allait être éteint dans cette histoire.
Bah ça,
au final, Cinematic et Blueprint, c'était deux albums qui ont cartonné.
Ouais.
Moi, je suis pas si sûr. Encore là, tu vois.
Churchill était team Rov, du coup.
Non, c'est pas ça. C'est que je suis pas si sûr de ça. C'est que nous, on pense que les clashs, ça n'a pas d'impact. Mais quand ils
sont. Bien sûr, mais je suis pas sûr qu'il y ait un aspect définitif. Après, c'est l'artiste qui a foiré, tu vois.
En gros, moi, je suis d'accord avec toi sur ça, mais c'est que je pense, après, de mon avis, un clash, c'est comme une espèce de tirage de maillot. On tire le maillot une fois. Deux fois, trois fois, il y en a un, soit il réagit, il met un coup de coude à l'autre, soit il bétonne, soit il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va sortir esquinté, c'est obligé. Personne ne peut. Bien sûr que tu vas pas finir de 100, tu vas pas passer de 100 à 20, mais à un moment donné, ça joue sur ton mental.
Mais c'est.
Regardez l'affaire de la boutique. Bah, à un moment donné, c'est lié.
Ouais, mais
les
après.
Gars, c'est réel.
Non,
à un moment donné, c'est.
Après,
si tu t'ajoutes ça, plus ci, plus ça, plus ci, ça joue.
En fait, le truc, c'est que je pense que sur Wesh Zoulet à AC Milan, moi, je rejoins le chroniqueur là-dessus, c'est. Voilà, c'est qui aura la plus grosse fanbase, qui
truc,
etc.
Mais après, ça va trop loin, c'est ça.
Après, là où je te rejoins, c'est plus sur la durée
ça,
du clash
je vous parle,
et sur la façon de gérer ce clash-là. Tu vois, parce qu'il y a eu deux mentalités différentes qui se sont opposées. Il y en a un qui jouait, tu vois. Mmh. C'était un jeu pour lui, tu vois. Il faisait des montages, il rigolait, ça faisait rire les gens, etc. Rof, j'ai pas l'impression qu'il l'ait perçu de la même façon. Et lui, il était plus dans un état d'esprit de.
C'est la guerre.
C'est la guerre. Enfin,
c'est comme dans la rue, quoi. C'est
la rue. Enfin, il a toujours dit, en gros, ben, dans la street, ça se règle pas comme ça. Lui, il voulait régler son truc autrement, tu vois. Et ça fait que, sur la durée, et ben, mentalement, je pense que c'est pas les sons en eux-mêmes, tu vois.
Ouais.
Je pense que, après AC Milan, après TLT, parce qu'il en avait fait deux, du coup, après ces sons-là, je pense pas que Rof, il s'est dit, c'est bon, je vais aller en découdre.
Non, c'était déjà avant qu'il voulait en découdre.
Mais je pense que c'est, chaque matin, tu te lèves, il y a un montage, il y a un truc, il y a un machin. Je pense que c'est là où il l'a
réalisé,
tu vois. Donc, en fait, je pense que c'est l'après.
Clash. Mais à côté.
Ouais, la suite du clash, en gros, tu vois.
Et c'est ça, moi, je pense que comment tu rebondis sur le truc après. Mais je pense que c'est plus après l'artiste qui peut être amené à se foirer dans ses choix, dans ce qu'il fait. Et derrière, on va dire, ah ben voilà, c'est parce qu'il l'avait éteint. Je suis pas sûr.
Tu penses qu'il n'y a pas d'influx mental, toi, dans des trucs comme ça?
Peut-être pas autant qu'on le penserait, je pense.
Ok. Et donc, sur tes points positifs et négatifs de la carrière de Booba?
Meilleur moment pour moi, c'était... franchement, c'était même avant la sortie de Mauvais Oeil. Parce que moi, là, je sais même pas ton flex, c'est réel. Parce que si.
T'as vraiment 45 ans.
Tu me vieillis.
Dis-nous ton nom.
Non, mais c'est parce que c'est sûrement.
Dis les termes.
Mais non, mais je suis obligé de dire les termes. Parce que c'est sûrement le morceau de rap français que j'ai le plus écouté.
C'est quel morceau?
C'est Civilisé.
Ah ouais.
Ah, toi aussi, t'as 45 ans, du coup.
C'est Rodin tout seul.
Fais le pot blanc, là.
Ah, du coup, t'es mauvais.
Il voulait Civilisé.
Tant pis, je dis les termes.
Ouais, j'aurais kiffé. Moi, je te dis.
Mais la version maxi, pas la version après qu'on retrouve sur Mauvais Oeil. Non, en fait, tout simplement pour remettre dans le contexte, Lunatic, ils avaient créé une attente incroyable. C'est-à-dire qu'on connaissait pas beaucoup de morceaux. Il y avait quoi? Il y avait Le Crimpel, Les Vrais Saves. Il y avait Booba sur Pulp Fiction avec Oxmo. Et en fait, ça avait suffi à créer une hype incroyable, en gros, dans l'underground, les gens qui vraiment se passaient des cassettes, des sons. Et en fait, on savait qu'ils avaient un truc particulier. Ça sonnait différent. Ça sonnait Carrie, ça sonnait Street, Macabre. Bon, c'était un peu les Mobb Deep français, si je veux faire l'escroc, le truc habituel. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti en prison. Et quand il est sorti, c'était un peu... Il y avait une attente, ça grouillait. Vous dites qu'est-ce qu'ils vont sortir du coup? Et en fait, c'est le maxi Civilisé qui est sorti, pas la version album, une version maxi produite par Chris Prolific. Et ce morceau, il était incroyable. C'était surtout la partie. J'aimais beaucoup la partie d'Ali aussi, mais la partie de Booba, c'était son nouveau flow, sa nouvelle voix et ses punchs très courtes et incisives. Et ce morceau-là, à l'époque, il m'avait retourné, vraiment, 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 vraiment retourné. Pour moi, là, il se passait un truc, un avant et un après ce morceau-là.
T'avais 20 ans. Et gars, j'arrête avec ça.
J'avais 20 ans. J'avais moins. Pour moi, il était à son prime. Donc, a suivi Mauvais Oeil étant mort. Toute cette période-là, pour moi, c'était la meilleure période. Et celle que j'ai le moins aimée, en fait, c'est quand c'est... Bah, je t'en parlais. Par exemple, quand j'ai vu le clip de Baby, sur Panthéon, j'ai pas compris. J'ai pas compris le virage parce que moi j'étais quelqu'un de très terre à terre. Ça veut dire que l'imagerie, je comprenais pas encore. Le concept de foutre des meufs à poil, on arrive en Cadillac, en machin. Je dis, mais c'est où que vous faites ça? C'est à Pont-de-Sèvres, il y a ça là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ici les Moulineaux, je fais, moi, en tout cas, chez nous, ça, j'ai jamais vu un boug rouler là-dedans. J'étais pas dans l'aspect un peu fantasmé, l'image, le côté cinématographique et capitaliser aussi sur quelque chose de plus grand que la musique. Et du coup, là, je comprenais pas ce virage-là et j'aimais pas les sonorités, j'aimais pas la direction que ça prenait. Et puis, à force, je m'y suis habitué. Et après, quoi qu'il arrive, tu progresses avec l'artiste, tu comprends ce qu'il fait. Il y a des moments où tu rattrapes le train, des fois, tu dis non, là, cette fois-ci, ça sera sans moi. Voilà. Et moi, à ce moment-là, c'était sans moi, clairement.
Ouais.
Et puis après, ça a toujours été, voilà, par moment.
Un et morceau, les autopsies, un tout autre, ça.
Ouais. Ouais.
C'est très clair. Et du coup, toi, Nico?
Pour commencer par le positif, un moment fort de la carrière de Booba, j'en parlais tout à l'heure, mais la sortie de Nero Nemesis, parce que, en gros, il sort le même jour que Rof, il sort le même jour que Jul, que la réédition de Nekfeu.
J'ai oublié ça.
C'était, je crois que c'était 4 décembre
2015.
2015, tu vois, ce jour-là, c'était une date de fou. Ouais. Tu vois, surtout qu'en plus,
c'est en 2015 ou 2016?
Non, 2015.
Il
avait sorti début 2015 DUC, fin 2015 Nero Nemesis.
Exactement. Et je crois que c'était prévu pour être un album surprise, qui du coup avait fuité 2-3 semaines avant, etc. Au final, il fait 32 000, 35 000 premières semaines en face de tous les autres, tu vois. Même si tout le monde a fait des gros scores ce jour-là, ouais. Tu vois. Enfin, au bout de la première semaine, mais il se passe quelque chose. Après Nero Nemesis, tu vois, ouais. C'était sombre. Tu vois, la fin du mois de décembre, elle était obscure.
Noir.
Ouais, c'était noir. Il s'était passé quelque chose. Le projet, personnellement, moi et mes goûts et de ce que j'aime de Booba, j'avais rien à redire sur ce projet.
Chaque morceau, j'ai pris.
Tu vois, j'ai pris les featuring, c'était chaud. Et ouais, en fait, pour moi, c'est un moment très fort de la carrière de Booba. Okay. Ça, c'est celui que moi, je sélectionnerais. Le moins bon, le pire, entre guillemets, je dirais plus sur la fin, tu vois, sur cette fin, avant Ultra, après Ultra, tu vois. Avant, j'avais l'impression que ces clashs, ces attaques étaient justifiées, tu vois, qu'il y avait quelque chose. Ouais. Je pense que c'est toujours justifié et qu'il ne le fait pas par plaisir. Mais tu vois, en fait, c'est que comme il y en a énormément, ouais. Et que du coup, il s'attaque vraiment à toutes les branches, vraiment. Là, tu vois. Et il y en a qui sont louables, hein. Attention, il y a des combats qui sont louables. Et
on sort de la musique, peut-être.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'est qu'il est sur tous les fronts, il est sur tous les artistes, il est sur des sportifs, il est sur. Tu vois, et en fait, ça devenait un truc où, tu vois, nous, on a aimé Booba, tu vois, on a aimé son rap, on a aimé sa musique, on a aimé ce qu'il dégageait, etc. Et en fait, ça devenait un truc où les gens, ils étaient en mode, ah, on souffle, nouveau clash. Ah, nouveau truc. Et c'est limite. Tout ce qui commençait à sortir, bah, ça passait un peu au travers. Les gens, ils écoutaient plus forcément. Tu vois, ils sortaient des singles par-ci, par-là. Ça commençait à être un peu en demi-teinte, tu vois, perçu par le public en mode, waouh, c'est relou, etc. Tu vois. Et en fait, moi, c'était un truc où je me disais, ça me fait chier, en fait.
Ouais.
Tu vois, ça me fait chier au même titre qu'un artiste comme Rof ou la nouvelle génération est en mode, c'est qui la huisse, etc. Alors que nous, on sait, tu vois. Après, je dis pas que les gens négligent Booba, tu vois. Au contraire, on le disait tout à l'heure, Stade de France.
Esquinter son image.
Mais c'est plus ce truc-là
force d'embrouille, c'est ça?
Tu vois, c'est le truc de encore un clash et encore un truc et encore machin, tu vois. Et on avait l'impression que c'est
ça a plus vraiment de sens, quoi.
Ouais, c'est plus... On espérait une sortie royale, la grande porte, le truc, tu vois. Et au final, ce Stade de France fait du bien, tu vois. Ce Stade de France fait du bien parce que je vais pas dire qu'on oublie, mais
ça remet dans l'ordre un peu.
Voilà. Et en fait, tu dis non, mais en vrai. Tu peux pas le faire sortir par là, une petite porte en mode oui c'est bon il part parce que les
en quelque sorte il se mélange pas aux autres rappeurs mais au moins il veut se mélanger à ses fans. Moi c'est comme ça que je le vois.
Ouais.
C'est peut-être comme ça.
Ouais.
Et Céline du coup.
Les meilleurs moments, je vais parler d'Au Calme parce que moi j'y ai participé quand même. C'était un gros truc Au Calme quand même. Enfin.
Quand c'est arrivé ça a fait du bruit.
Ça a fait du bruit.
Ça a fait du mal aussi.
Ça a fait du mal.
Ça a déstabilisé.
Tu parles de qui?
Tout le monde en vrai.
Que ce soit Bouscapé, Rappelli, tout autre média.
Vous avez posé des questions. Qu'est-ce qu'il veut lui?
Comment
il a vécu le truc? Parce que t'as envoyé une belle perche là. Comment quand il a vu Au Calme arriver?
Je pense qu'au début, on va dire les termes, ça les a fait chier. Mais comme tout chose que je dis, tu te dis, bon, il y a un nouveau média qui arrive. OK, en plus, on est dans les mêmes rangs de promo, donc dans les mêmes deals de promo et même rangs aussi. Tu vois, à un moment donné, on était à la même hauteur, entre guillemets.
Et puis, il y a les moyens économiques aussi. Ça arrive, en gros, avec des moyens économiques.
Et du coup, je pense que, ils se sont dit... Bah, après, d'une autre manière aussi, je pense que positivement aussi, ça les a, pour tous les autres médias, pas que pour Rappelite, ça les a permis de se pousser aussi et d'aller plus loin dans leurs idées.
Tu lui as fait sa réponse. Moi, je voulais savoir ce qu'il en pense.
Non, c'est
comment toi tu l'as vécu à l'époque après tu
non mais quand ça arrive forcément comme il dit Nico c'est forcément déstabilisant parce que tu te dis bah c'est un nouvel entrant sur le marché qui a des moyens importants etc. Mais après à un moment donné où tu te dis en plus je crois nous à ce moment là on était on montait de plus en plus on diversifiait plus ou moins les formats etc. Tu te dis tu te concentres sur ta ligne. En fait si c'est pas Ockham ça sera sûrement un autre média. Il y avait Bouscapo aussi qui était déjà numéro un qui était déjà bien en avance sur nous. Il y a eu d'autres médias qui sont apparus après. En fait, ce que je reprends là, c'est que moi, je pense que c'était bien pour la culture d'un point de vue général. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'était relou pour ton petit prisme de médias web, rap, indépendant, vas-y, urbain, on appelle ça ce que tu veux, mais à un moment donné, ça a ramené quelque chose parce que je crois qu'il y avait la chaîne télé
je
aussi.
Je pense qu'on a mis la pression.
On dit les termes.
Non, mais à un moment donné, voilà. Je pense qu'on a quand même arrivé. Je pense que c'était un peu inattendu. En plus, on est monté très vite, finalement, aussi. Tu vois, on est arrivé vite dans les mêmes créneaux promotionnels que tout le monde. Donc, du coup, on donnait moins de temps de promo à d'autres médias. Et évidemment qu'il y a eu un moment où ça a mis la pression, mais je pense qu'aussi, ça a mis la pression positivement. Parce que, vraiment, quand tu parles de nouveaux contenus, je sais qu'à un moment donné, nous aussi, on arrive avec de nouveaux contenus, des nouveaux programmes de marques fortes, comme Au revoir, merci, plein de petites capsules. Et à ce moment-là, il y a plein de médias qui ont créé des nouvelles capsules et qui se sont mis aussi à ce type de format.
Après, ouais, c'est ça, je pense que t'as raison. Quoi qu'il arrive, ça déstabilise, ça crée une friction dans le marché. Il y a quelque chose
qui se passe. Mais ça fait du bien.
Après, je sais pas comment Bouscapé, vous avez vécu ça aussi, ou qu'au caisse, pour la culture, c'est bien. Mais nous, on vient tellement du fin fond de la cave, du. C'est même pas.
Et vous avez fait vos classiques comme
non,
ça.
Non, en fait, c'est une barrière de plus. C'est quoi? Tu dois faire avec, tu dois composer avec. Comme aujourd'hui, il y a différents éléments de freins, de ça. Faut composer avec. En fait, nous, on a toujours été dans l'état d'esprit, si tu veux.
Et c'est une barrière de plus, quand même, il a dit.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une de plus. En fait, on a eu tellement, c'est des challenges. À toi de te bagarrer. C'est comme un terrain dehors. Enfin, quelqu'un veut prendre ton truc. Il y a des parts de marché qui se rapetissent. Et vas-y, c'est la bagarre.
On n'en dira pas
en
plus.
En tant que média indépendant, nous, on a continué à se développer, etc. On a pu passer certaines difficultés au coup aux caisses. On a perduré. Après, je sais pas forcément pourquoi Ockham, ça s'est arrêté.
Ça sera une autre discussion.
Non, mais on veut savoir.
Parce que moi, je veux savoir les meilleurs moments et les pires moments.
T'as vu la sauve. T'as vu comme elle est, la sauve.
Non, t'as répondu.
Non, mais ce sera. Je vais être honnête.
C'est dans tes pires moments.
Bah, ouais, parce qu'en fait, bah, du coup, bah, moi, je suis la première à intégrer OKLM. Du coup, j'étais la première employée d'OKLM. J'ai créé le truc.
C'est ça.
Depuis
le début. Le côté émotionnel.
Voilà, ça a commencé réellement en 2015. Donc, du coup, moi, j'ai vécu aussi le Bercy. J'ai participé à la captation du Bercy aussi. Et puis, de toute l'évolution d'OKLM, ça a duré 5 ans, réellement. Même si c'était, au début, c'était juste un site comme un peu World Star
hip-hop.
Mais après, quand c'est devenu un vrai média, c'était à partir de 2015, du coup. C'était une formation, mais vraiment, c'était une formation. Et parce que malgré ce qu'on peut penser, on n'avait pas tant de moyens que ça. Même très peu moyens. C'est moi, c'était Booba, justement, qu'on avait énormément de moyens. Et lui, pour lui, c'était un challenge aussi. Donc, quand il a débuté ça, il partait comme un média lambda, en fait. Donc, on n'avait pas tant de moyens que ça.
Bref. D'accord, ok.
Donc après...
En tout cas, c'est très détaillé.
Après, j'ai une question qui va dans le cas Booba, tu vois, que je me suis toujours posée. Tu vois, ça a toujours été un compétiteur qui est très rancunier aussi, tu vois, et qui n'oublie rien. Et moi, j'ai l'impression... Enfin, c'est... Et on n'a pas la réponse, tu vois. Mais je me dis, au moment où il lance OKLM, est-ce qu'il y a cette volonté de lancer un média? Ou est-ce que c'est une volonté de concurrencer des gens qui ne l'aiment pas aussi, tu vois, qui sont boostés?
Dis les termes.
Tu vois non, mais il est... Est-ce que ce n'est pas une volonté aussi d'aller sur ce terrain d'un des gars qui ne l'aime pas? Et après, la radio... OKLM Radio, parce que quand il lance OKLM Radio, il dit directement qu'il est en mode je veux contrer Skyrock. Tu vois, donc je me dis, est-ce que c'était une volonté de lancer un média ou c'était une volonté d'aller concurrencer?
Tu voulais être utile à l'agréable aussi.
C'était les deux, parce que c'est un passionné, on va pas revenir dessus. Tu vois, c'est, voilà.
Donc
il était fier de pouvoir monter ce média-là. Et en même temps, s'il peut tacler aussi les autres, c'est tout bénef, en fait. Ouais. C'est tout simplement ça. Et dans mes pires moments, du coup, c'est la fin d'OKLM. Ça a été un moment hyper compliqué. Et en plus, pour le coup, ça a jamais eu. Ça a été comme un sujet tabou. pour
on n'a jamais eu. Et il n'y a jamais eu de. Et
voilà, récemment, il en a parlé dans des interviews. Il a dit qu'effectivement, à ce moment-là, il ne s'entendait plus avec ses associés et que financièrement, ils n'étaient plus là où ils voulaient investir et que du coup, ils ont décidé d'arrêter. Qu'à ce moment-là.
T'en dire plus, hein.
Comment?
T'en dire plus, hein. C'est peut-être le moment d'en dire plus.
Donc peut-être qu'on a cette raison-là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, en 2020, ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, hein, mais voilà, il y a plein de personnes à ce moment-là dans ce média-là. Et du coup, pour plein de monde, leur vie s'arrête aussi, en fait. Moi, je n'étais pas la plus à plaindre parce que j'avais d'autres trucs à côté et que j'ai toujours assuré mes arrières. Et que je pense que c'est un truc qu'il faut que tout le monde prenne en considération, que ce soit artiste ou journaliste dans le milieu ou voilà, dans la musique en règle générale. Il faut toujours avoir un truc à côté. Ou assurer ses arrières. Mais il y en avait beaucoup aussi pour qui c'était hyper compliqué, cette fin. Et en fait, du coup, au-delà de laisser le média pour le public un peu comme
vacant.
Ça, laisser un peu pour mort au fur et à mesure, et qu'au bout d'un moment, que les gens se rendent compte au fur et à mesure qu'il n'y a plus de programme sur Ocalm, en fait, parce qu'il n'y avait même pas eu d'annonce, du coup, on laisse aussi les gens comme ça un peu à l'abandon.
Les gens finalement. Qui ont soutenu le projet. Quoi.
Les gens qu'ont créé, qu'ont soutenu, qui ont mis toute leur vie, toute leur force. Et c'est vrai que... un communiqué, un mot, un remerciement, une reconnaissance, je pense que ça méritait. Après, je pense qu'il a laissé couler le truc parce que je pense que lui-même, à ce moment-là, il ne savait pas s'il avait envie de reprendre, de laisser le truc couler, de laisser, de réinvestir. Je pense qu'il y a eu un moment de doute.
Est-ce que vous en vouliez, est-ce que vous lui en vouliez à lui personnellement ou c'était...
À ce moment-là, pour l'équipe d'Ocalm, c'était extrêmement compliqué, évidemment. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'était, c'est dur parce qu'en plus, on était en plein période de confinement. Du coup, t'arrêtes un média et du coup, tu laisses des personnes.
Sans rien, quoi.
Comme ça, chercher un job alors qu'il n'y a pas de job là, parce que confinement, on fait comment? Donc, moi, voilà, encore une fois, je n'étais pas la plus à plaindre. Je sais que pour d'autres, c'était hyper compliqué. Je trouve qu'au-delà du média et tout, même pour les gens qui travaillaient et qui avaient construit le média, on n'a jamais parlé, mais en vrai.
Attends, tu dis les termes.
J'ai dit les termes, c'était hyper compliqué et je pense que ça méritait peut-être un petit mot de fin pour nous, pour l'équipe, pour les talents qui ont participé. Mais c'est vrai que en vrai, on n'a pas mis une vraie fin en fait. Mais après, c'est la vie.
C'est la vie. Merci à vous. C'était un super épisode. Je pense que pour le coup, on a dit les termes. Et surtout, n'oubliez pas, dit les termes est disponible sur toutes les plateformes de streaming. En podcast un jour avant l'épisode sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Sinon, merci encore à vous. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum cet épisode. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé. Cheers.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de Dis les termes présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast Dis les termes sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.